Bonjour David, bonjour à tous. Le syndicat du Val-de-Loire a adopté son budget 2026 mercredi soir après une année 2025 record en termes de vente d'eau, mais il convient de rester prudent même si tous les indicateurs sont au vert. L'inauguration mercredi soir de la maison de santé pluridisciplinaire de Mauléon qui a pris place dans les bâtiments de l'ancien supermarché Lidl. La ligne ferroviaire Saumur-Bressuire nécessite des travaux de réhabilitation urgents. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine appelle l'État à assumer ses compétences. L'agglo de B poursuit son plan piscine sur les prochaines années en ce qui concerne cœur d'eau à Bressuire. Même si le projet n'est pas arrêté de façon définitive, les élus ont répondu aux détracteurs. Comme dans d'autres villes en bocage bressuiré, il n'y aura pas de seconde liste pour les municipales à Neuilly-les-Aubiers. Et puis 80 000 spectateurs hier soir au Stade de France pour le match d'ouverture du tournoi des Six Nations remporté par les Bleus. Dans le public, l'un de nos correspondants sportifs, Laurent Guichetot, réaction dans ce journal. Quant à la météo, quelques éclaircies certes, mais surtout une couche nuageuse persistante, un peu de vent et de la pluie. L'association pour la défense des enfants présidée par le Niortais Quentin Guillemin annonce saisir officiellement la défenseure des droits. Pour ce dernier, les nouveaux retraits et rappels de lait infantile contaminé annoncés ces derniers jours confirment l'ampleur et la gravité d'un scandale sanitaire qui s'installe dans la durée. Après des semaines de rappels en cascade, l'abaissement des seuils de sécurité par les autorités entraîne de nouvelles mises en retrait de produits pourtant présentés comme sûrs quelques jours auparavant. On joue à la roulette russe avec la santé des bébés, c'est inacceptable, déclare Quentin Guillemin. Le budget du SVL voté à l'unanimité mercredi soir, il s'équilibre à 16 150 000 euros en fonctionnement, à un peu plus de 11 millions en investissement, un budget qui s'appuie sur un excellent résultat 2025 qui dépasse les 2 millions d'euros, un résultat excédentaire qui s'explique notamment par une importante hausse des ventes d'eau sur l'année écoulée, 5,5 millions de mètres cubes, principale ressource du syndicat qui misait sur 5 100 000 mètres cubes. Les voyants sont donc au vert pour Dominique Régnier, la présidente du syndicat du Val-de-Loire.
Il y a quand même une chose primordiale, le Sébron est plein. Donc en conséquence, nous aurons de l'eau effectivement pour pouvoir approvisionner tout le syndicat du Val-de-Loire. Donc ça c'est déjà une première chose. Après effectivement, on ne connaît pas quel sera le climat au cours de l'été. Si nous avons un été un peu pourri, on vendra moins d'eau, mais si effectivement on a quand même des périodes un peu chaudes, caniculaires, nous devrions effectivement avoir une année 2026 qui pourrait s'apparenter à 2025. On est quand même prudent sur certains points parce qu'on ne sait jamais dans un syndicat d'eau ce qui peut se passer au cours d'une année. On est malgré tout très prudent, mais on n'a pas d'inquiétude pour l'instant à avoir. Pour l'instant, je dis bien.
Un résultat d'autant plus intéressant que le syndicat s'était montré prudent, anticipant un nouveau contrat plus coûteux avec Agur, 8 à 900 000 euros de plus en 2026 qu'en 2025, mais avec une prestation d'un niveau supérieur. La transition se passe bien, car Veolia a joué le jeu jusqu'au bout, comme le précise Dominique Régnier.
La fin de contrat sur un plan administratif s'est très bien passée. Il n'y a pas eu effectivement de contentieux sur cette fin de contrat. Et après, l'équipe technique de Veolia a travaillé jusqu'au 31 décembre, pratiquement après minuit, parce qu'en fin de compte, il y avait une fuite sur Mauléon. Et il y a eu beaucoup de fuites au cours de cette dernière semaine. Et vraiment, l'équipe Veolia a été remarquable.
Et Agur répond aux attentes en mettant les moyens qu'il faut.
Oui, tout à fait. Sur ce premier mois, qui est quand même particulier, d'une part, ils ont vraiment anticipé leur installation sur Bressuire, parce qu'ils avaient recruté du personnel, notamment des chargés de clientèle, des personnes qui étaient là depuis le 15 décembre. Et à partir, effectivement, du 1er janvier, là, il y a vraiment une équipe qui a été renforcée et qui répond, effectivement, à toutes les attentes des usagers et des attentes qui sont nombreuses.
Dominique Régnier, qui a présidé son dernier comité syndicale du syndicat du Val-de-Loire mercredi soir, même si elle reste présidente jusqu'à l'installation de la prochaine équipe aux alentours du 20 mai, le temps que les conseils communautaires désignent leurs délégués. En lieu et place de l'ancien supermarché Lidl fermé en 2023 et en présence du président de la région Nouvelle-Aquitaine, l'inauguration mercredi dernier de la maison de santé ouverte à Mauléon depuis la mi-janvier.
Avec un collectif, on peut avancer ensemble pour faire des beaux projets et ce projet en est l'exemple.
On arrive dans l'accueil et donc deux possibilités,
une possibilité pour accéder les patients du côté médical, donc médecin et infirmière d'un côté, paramédical de l'autre, deux salles d'attente et après les professionnels viennent de leur côté pour accueillir les patients et pouvoir les orienter vers leur salle de soins.
Combien de professions représentées?
5 professions paramédicales et les médecins et les assistants médicaux.
Et dans les professions paramédicales, donc
Il y a infirmière, pédicure, podologue, psychomotricienne, orthophoniste et une psychologue qui va arriver et qui est à côté.
Fruit d'un travail de concertation entre l'agglomération du Bocage-Bressuret, la commune, les professions de santé et la communauté professionnelle territoriale de santé, ce nouveau bâtiment pluridisciplinaire, d'un coût global d'1 670 000 euros hors taxe, scindé en deux parties, accueille dans sa partie publique deux médecins et des professionnels du paramédical, et dans la deuxième partie privée, 5 kinés sur les 6 possibles sont déjà installés, dont Théophane Barthaud que vous venez d'entendre et qui menait la visite mercredi soir.
Donc actuellement, il y a 6 maisons de santé sur le territoire. Il y en a 3 publiques et 3 privées. Et donc là, c'est la numéro 7. Faut pas trop voir grand, mais faut quand même essayer d'anticiper. Dès qu'il y a un pro qui arrive, quand même, te dire, ben, on a quelque chose sous la main. On avait la chance quand même d'avoir 600 mètres carrés. Donc, il y avait quand même de l'espace à accueillir. Donc, les professionnels, médicales, paramédicales, santé mentale, et aussi, du coup, les internes, les docteurs juniors et les stagiaires aussi qu'il faut réussir à accueillir.
Une inauguration en présence de nombreux élus, dont le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui rappelait l'intérêt de ces maisons de santé. La région en finance une centaine intéressante pour pallier à la désertification médicale. Alain Rousset, également au micro-colline de Jacqueline Pinon.
Là, on vient d'inaugurer une maison de santé. Écoutez, c'est à la fois le signal d'un problème d'absence d'anticipation il y a 15 ans, 20 ans, même avant, le fameux numerus clausus. Alors même que la volonté de qualité de vie des médecins, hommes ou femmes, est la même que celle de nos concitoyens. Alors il faudrait qu'ils prennent un peu plus de garde pour ne pas saturer les urgences, mais quand on veut remplacer un médecin, aujourd'hui, il en faut 2, voire 2,5.
Et vous soulignez aussi dans vos propos tout à l'heure l'importance d'avoir des stagiaires et donc un médecin tuteur.
Voilà, médecin tuteur, stagiaire, logement, parce que ce dont on s'aperçoit, si l'on veut avoir de l'installation dans des zones rurales, il faut que le jeune médecin, l'étudiant en médecine, vienne se former sur place et à un tuteur.
La dynamique est donc lancée. Elle doit permettre aux professionnels de santé de s'inscrire dans un projet de santé qui leur ouvre la possibilité de se sentir moins isolés en milieu rural, dans la perspective de venir s'y installer plus facilement. Les patients en attente de médecins traitants depuis le départ du docteur Souchaud n'ont plus qu'à s'armer de patience. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine était donc en Bocage, et pas seulement pour inaugurer cette maison de santé. Alain Rousset a également visité hier matin Alkena à Bressuire, les meubles Celio à la Chapelle Saint-Laurent et l'Azeris du groupe Clisson Métal à Montcoutant-sur-Sèvre. L'occasion était toute trouvée pour Fabien Gazot de l'interroger sur le sujet qui inquiète les élus locaux, la défense de la ligne ferroviaire numéro 10 entre Saumur, Thouars et Bressuire. Il est urgent d'intervenir sur ce tronçon en très mauvais état, je vous le rappelle. Le chantier de rénovation est évalué à 200 millions d'euros. 128 millions de crédits sont inscrits dans le contrat de plan État-Région Pays de la Loire Nouvelle-Aquitaine, mais c'est insuffisant. Alain Rousset demande à l'État d'assumer ses compétences.
On est dans une bataille. Vous savez que la compétence de la région et les ressources qui vont avec sont de faire rouler les trains. Là, on vient d'acheter 28 rames. Une rame de train, c'est entre 10 à 15 millions d'euros. Et chaque fois qu'on fait passer un train quelque part, on paye un péage. Aujourd'hui, la région paye à SNCF 100 millions d'euros par an de péage pour rénover les voies. Donc moi, j'attends que SNCF fasse le job. Deuxièmement, la compétence des infrastructures, c'est l'État et SNCF Réseau. Et troisièmement, on a été très volontaire. On a réouvert, par exemple, la ligne Niortoire pour le fret, qu'on a financé quasiment seul. Mais aujourd'hui, l'État vient de nous prendre dans les poches 300 millions d'euros de recettes. Donc, on est obligé d'adapter la voilure par rapport à toutes les actions volontaires. Ça signifie pas que si on peut le faire, on ne s'occupera pas de cette ligne. Mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on sache qui fait quoi dans ce pays et d'où viennent les finances. On essaye d'assumer et de pousser l'État à financer cette ligne qui est une ligne structurante pour les deux régions.
Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, à propos de la défense de la ligne 10, Saumur, Thouars, Bressuire. Et après Alain Rousset, c'est Françoise Gatel, ministre de l'aménagement des territoires et de la décentralisation, qui est en Deux-Sèvres cette fin de semaine. Elle était ce matin dans le sud de notre département, en mairie de Coulon, pour évoquer le programme Village d'Avenir, puis à la maison du Marais Poitevin, avant de faire étape à la résidence autonomie intergénérationnelle Les Vignes de Siècle. Cet après-midi, la ministre ministre visitera l'usine SMM de Nueil-les-Aubiers appartenant au groupe DPC avant de se rendre à Mauléon pour notamment découvrir cette maison de santé pluridisciplinaire inaugurée donc mercredi dernier, bien entendu. Nous y reviendrons. L'agglo de Bay poursuit son plan piscine. Au moment de voter son budget mardi soir, la collectivité a réaffirmé sa volonté de moderniser les piscines du territoire. Ainsi, à Montcoutan, le début des travaux est prévu pour mi-2026 pour une ouverture à l'été 2027. À Nueil-les-Aubiers, le début des travaux sur le Val-de-Scie devrait également intervenir cette année, à l'automne, pour une ouverture à l'été 2027. Aquadel est opérationnel, à Cerisay. Il restera alors à rénover Cœur d'eau. Ce sera pour 2028 avec un programme prévoyant plus de 6 700 000 euros et des critiques ont déjà été exprimées alors même que le projet n'est pas définitif. Emmanuelle Ménard, vice-présidente de l'Aglo de Bay en charge de l'économie, veut que l'on donne une chance à ce projet, rappelant qu'à l'époque, Bocapole et le nouveau théâtre avaient également suscité beaucoup de défiance.
Le projet n'est pas encore sorti, même sur les planches. Nous y travaillons en concertation avec des usagers, avec les jeunes, pour évidemment faire un extérieur de qualité. Donc laissons-lui la chance à ce projet. L'idée, c'est d'avoir le mur rideau actuel, de pouvoir l'ouvrir complètement. Et il donnera sur des espaces extérieurs qui seront complètement réaménagés, avec des lieux de détente, des lieux de convivialité, des jeux pour les jeunes. Tout ça, c'est à étudier. Ça va être 6 millions et demi investis complètement sur ce centre aquatique Cœur d'eau. Donc ce sera un projet de qualité, moi j'en suis sûre.
La vice-présidente de l'Aglo de Bay n'est pas la seule à monter au créneau pour défendre le plan piscine. Le président de l'Aglo, Pierre-Yves Marolleau, a rappelé que l'équipement serait beaucoup moins bien subventionné qu'Alkena, par exemple.
Un projet qui sera beaucoup moins aidé que Alkena a été, hein, parce que l'État aujourd'hui ne subventionne que très peu, voire pas du tout les centres aquatiques. Ça sera quand même l'équipement phare du bocage. Et puis, encore une fois, il faut qu'on vive avec l'avenir et pas avec le passé. Ça me semble extrêmement important. Et on a un projet de territoire, encore une fois, pas un projet de commune. Et moi, je reste attaché à notre priorité première pour ce qui est de la natation, c'est de permettre aux enfants des écoles de tout le territoire d'aller justement faire de l'apprentissage de la natation. Et ça restera pour moi la priorité numéro une.
Il ne faut pas oublier que les dépenses de fonctionnement sont aussi très importantes pour les piscines, comme l'a rappelé Claude Pouzin, vice-président en charge du budget et des finances, qui a cité ce chiffre de 1000 euros par jour d'ouverture par piscine.
C'est pour ça qu'il nous fallait, à l'échelle de l'agglo, rationaliser nos équipements, passer de 6 à 4, et puis maintenir 2 piscines ouvertes toute l'année, et 2 bassins d'été à Montcoutan et la rénovation de Val-de-Scie, parce que c'est apporter un service aux habitants, mais ce service a un coût d'investissement, on l'a dit, hein, c'est le schéma des piscines, c'est 10 millions d'euros au total, mais assurer aussi derrière, autant que faire se peut, nos dépenses de fonctionnement au quotidien. En rénovant des bassins, c'est aussi des économies d'eau, des économies d'énergie, et puis rationaliser le personnel pour donner du service aux habitants, mais de manière maîtrisée.
Claude Pouzin, vice-président de l'Aglo de Bay en charge du budget et des finances, également interrogé par Fabien Gazot. Les municipales, il n'y aura pas de deuxième liste à Nueil-les-Aubiers. Nous l'évoquions tout récemment. Depuis plusieurs mois, le collectif citoyen, emmené par des membres de la minorité sortante, a initié 6 rencontres ayant permis de faire émerger des idées et une volonté de changement. Mais il n'a pas réussi à réunir les 29 personnes nécessaires pour constituer une liste pouvant s'opposer à la réélection de Serge Bouju. L'engagement sur 6 ans, l'exposition publique et les craintes liées à l'affirmation de ses idées constituent encore des freins importants, estime le collectif. Nueil-les-Aubiers ne sera pas la seule commune à une seule liste, mais Virginie Salès s'interroge sur la vitalité de la démocratie locale.
C'est la question de la démocratie, c'est aussi la question de l'engagement, de la question du collectif et du bien commun. Je trouve que c'est très très difficile d'aborder ce sujet auprès des personnes. Après, je souhaite quand même relativiser les choses par rapport au fait que certaines communes n'aient qu'une liste. Il y a aussi le fait du rapprochement et de l'ouverture de certaines listes, ce qui n'est pas le cas sur Nueil-les-Aubiers. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une liste, mais ça n'a pas été une liste d'ouverture. Ça veut dire que le débat démocratique, en tout cas, va être très pauvre sur Nueil-les-Aubiers. Et moi, c'est ce qui me chagrine le plus. Je me dis, on vient d'offrir une carte blanche et c'est un peu dommage quand même.
Le collectif citoyen n'a donc pas pu constituer une liste de 29 personnes, mais l'association Granit va rester active avec toujours cette même volonté pour Virginie Salès de faire vivre une démocratie ouverte et participative. L'actualité sportive, retour ce midi sur ce match hier soir entre le 15 de France et l'Irlande, l'ouverture du tournoi des Six Nations. Les protégés de Fabien Galthié ont parfaitement négocié leur entame de compétition en s'imposant 36 à 14, après tout de même un petit trou d'air en seconde période. Dans les tribunes du Stade de France, l'un de nos correspondants sportifs, Laurent Guichetot, qui, au-delà de la victoire des Bleus, retiendra l'ambiance qui entourait la rencontre.
Une très belle soirée, oui. Très grosse ambiance, comme rarement vu sur des événements sportifs comme ça. Là, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse communion avec tous les supporters et puis avec toute la communauté irlandaise qui était très très nombreuse. C'est d'une simplicité qu'on retrouve pas forcément dans d'autres sports. Je vais forcément faire, moi qui suis un peu footeux, la comparaison avec le foot. C'est des ambiances qu'on retrouverait pas, une communion qu'on peut avoir au niveau du rugby. Et c'est vraiment, quand on parle des valeurs du rugby, celle-ci, elle est très importante et elle se retrouvait autour du Stade de France, Seygard. Le hasard fait qu'on s'est retrouvé avec d'autres de Sévriens, des gens de Cerizay, des gens de Courlay, on s'est croisé, des gens de Saint-Amand aussi, des amis que j'avais pas vus depuis longtemps, et puis donc c'est vraiment sympa.
Le sport rassemble, hein.
Le sport rassemble, ça c'est pas nouveau, mais là sur ce match-là, ouais, ça rassemble vraiment. Et puis il y avait une communion notamment autour du terrain avant le match avec les Irlandais, et que ce soit dans le métro hein, pour se rendre au stade, là c'est vraiment impressionnant.
Le prochain match du 15 de France désormais dans ce tournoi destination, ce sera le dimanche 15 février à 16h10 face au Pays de Galles. Le match se déroulera à Cardiff. Le 8e numéro de Cholet Basket, le podcast avec des invités exceptionnels, réalisé par Ouest France en collaboration avec Colline La Radio. Ce nouvel épisode reçoit Aaron Toho, Nancy et Antoine Rigaudot. Le premier incarne l'avenir du club, le second une légende de CB. Cholet Basket, le podcast, sera en ligne sur son site internet dans le courant de cette journée.